Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio. Bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, je vous propose une rencontre insolite dans un monde qui, par définition, est peu connu de nous autres, le commun des mortels. Nous n'allons pas aller à la rencontre des dieux, quoique, mais de certains hommes et de certaines femmes exceptionnelles par leurs dispositions un peu spéciales, des dispositions mentales, plus que par leur aspect physique. A priori, ils ressemblent à n'importe qui que vous pouvez croiser dans la rue, mais ils ont un but, une mission invisible aux autres et une capacité à se fondre comme des caméléons dans des milieux où ils sont reçus naturellement, sans méfiance, et dans laquelle ils vont réussir à capter, à enregistrer, à mémoriser des informations qui vont être utiles à leur employeur. Ces êtres banals en apparence ont une vie très particulière puisqu'ils sont à la fois eux-mêmes et quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas schizophrènes pour autant, ce sont des agents secrets. Ce dont nous allons parler, ce n'est pas du roman ou de la bande dessinée, ce n'est pas non plus du cinéma, toute forme de création qui ont largement exploité ce monde qui, à juste titre, peut nous fasciner. La plupart du temps, ces espions, ces agents secrets sont inconnus, y compris au sein de leur propre famille. Ceci n'est pas sans poser problème, nous le verrons dans un instant. Chaque pays a son style, ses méthodes, ses techniques, ses réussites et ses échecs. Il en est un, cependant, qui par sa situation historique et géographique a développé, depuis sa création, des méthodes et des actions plus ou moins occultes qui fascinent le monde entier. Ce pays, c'est Israël et ses services secrets, le Mossad. Un nom qui fait parfois frémir, qui fait souvent l'admiration des gens ordinaires ou qui est associé à tout acte, pas toujours recommandable et le plus souvent inexpliqué. Ce soir, je vous propose d'entrer dans ce monde discret et secret, mais aussi dans tout l'environnement qui l'entoure. Ce soir donc, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'avoir pour invité Sophie Cohen-Bendor, la fille d'Eli Cohen, un des plus célèbres espions du Mossad, qui est de passage à Paris et qui sera traduite par Valérie Pérez-Zenouchi, qui est journaliste. Nous allons aller dans le vif du sujet dans un instant, mais j'aimerais saluer la présence sur notre antenne de Sophie Cohen-Bendor. La traduction donc sera assurée par Valérie Pérez-Zenouchi. Bonsoir, Sophie Cohen-Bendor.
Bonsoir.
Merci de nous donner en français votre salut. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Voilà, merci de nous recevoir lors de votre passage à Paris à l'occasion de la publication d'un livre que vous consacrez l'une et l'autre. C'est à la fois un livre d'entretien, un livre d'enquête et un livre de témoignage de première source, de première main, puisque le Mossad, en quelque sorte, y a contribué. Nous le verrons en quoi. Ce livre est consacré à votre vie de fille et à votre famille et bien entendu à l'activité de votre père. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Quelle est l'image encore aujourd'hui d'Eli Cohen, agent du Mossad légendaire, et dans l'imaginaire des Israéliens aujourd'hui, pourquoi reste-t-il aussi présent ? Sophie Bender, traduit par Valérie Pérez-Enouchi.
Why is your father still, you know, so present in the Israel society?
There is only, there's a few people in Israel that did their work until they're dead to everybody in Israel. You know, most of the people did a part to some group in Israel, but he was a hero that gave everything to everybody and put himself in a great danger for it, and it was very important to him to do that. So it's pure for everybody, no interest, no personal interest for himself.
Alors en fait, au début, il y a eu très peu de personnes qui se sont intéressées justement à l'histoire de son père. Donc c'est pas lui qui a transmis ou c'est pas la famille qui a transmis. Ça a été transmis de bouche à oreille. Et en fait, c'était quelque chose qui était très pur. Il n'y avait aucun intérêt dans ce que faisait son père. Et en fait, ce qui fait que c'est un héros national aujourd'hui, c'était la motivation, c'était l'abnégation. Et aujourd'hui, effectivement... quand on parle d'Eli Cohen en Israël, il n'y a pas un Israélien qui ne réagit pas à son nom.
Alors, parlons un peu de cet homme-là. Il est né en 1928, je crois, et il est né à Alexandrie, en Égypte. Valérie, vous pourriez demander quel est un peu le parcours d'Eli Cohen dans sa jeunesse, dans son adolescence?
So your father was born in Egypt, and he would like to know what was how did he get to Israel? What was the way of he took to get to Israel and to become a spy like this?
As a boy, he knew about Israel and dreamed about Israel. He wanted Israel to become a country, so he was involved as a young man in Egypt to help Israel. To have weapons, they stole weapons from the Englishmen in English army in Egypt, and they sent it to Israel through Europe. So he was was in a group that tried to make bombs in Egypt to head quarrels between the English and the Egyptian. And then he knew he will come to Israel. He was very Zionist, always. So he came to Israel, knew that he wants to be involved in the secret missions of Israel to help the small country to evolve.
Donc son père en fait a toujours été très impliqué dans la création de l'État d'Israël, même lorsqu'il était petit garçon. Il faisait partie d'un groupe qui volait des armes et pour les faire passer en Israël en passant par l'Europe. Donc il a toujours été très impliqué dans ces mouvements pour justement créer un petit peu la pagaille entre les Anglais et les Égyptiens. Et quand il est arrivé en Israël, il savait qu'il allait faire partie des services secrets et il savait qu'il allait aider ce jeune État, Israël, à se construire et à devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il avait fait des études pour ça? Est-ce que, ou bien c'était dans son être même qu'il avait envie de jouer ces doubles jeux?
Did he go to the university? He did some studies, or it was just in himself, you know, knowing that he wanted, you know, to be part of the Mossad.
Sophie Cohen-Bendor.
He learned at the university, but he was he never finished because they didn't let him finish his degree in I don't know how to say Hindusa. It's engineering. He was never finished that, so it was a part. He works as account, money account. He was good in math and he was a precise person and he likes order and that's what he do.
Valérie, traduisez-nous ce parcours.
Alors en fait, il a été à l'université, effectivement, mais comme il était juif, on ne l'a pas laissé terminer ses études. Alors il était très fort à quelque chose, c'était la comptabilité. Donc il était comptable, il était très fort en maths. Et en fait, il avait quasiment fini ses études d'ingénieur quand il a dû partir d'Égypte pour rejoindre Israël.
En quelle année ça on peut il naît en Égypte dans une famille assez modeste, assez pauvre, hein. Cette famille est obligée de s'exiler. Il y a énormément de pression sur la communauté juive qui était quand même importante en Égypte, mais on est dans les années 35, 40.
Which year was that? So he was in a family that didn't have any money. It was very hard for them. In which year, you know, he was at the university, and which year they left, you know, all of them for Israel?
They left on at the 80. No, just a minute. 57 or 50, 51 they left. 51 they left Egypt to Israel, and he stayed in Egypt alone doing his things, and they never knew what he does.
Alors en fait, ils sont tous partis en 51, mais lui, il est resté seul en Égypte pour faire ses affaires, comme elle dit, mais personne ne savait ce qu'il faisait.
Très bien. Dans le livre, Eli Cohen, héros du Mossad, vous parlez d'une situation familiale assez dure. La petite fille que vous étiez, à la fin des années 50, début des années 60, vous êtes une petite fille assez malheureuse. Comment expliquez-vous cela?
So in the book you told me that your childhood was very hard, and the family, you know, was very difficult, and the specific problem, you know, concerning the death of your father. So he would like to know a little bit more about this and in which condition you were living.
Sophie Bender.
I think we didn't have a father at the house. He came for every 4 or half a month, or half a year, to visit us for two weeks. And then he worked all the time during these 2 weeks with the government and the army. So he was absent. And it was strange for the neighborhood, for the family. What happened there? Who is this man? Is he honest? Is he a real man? Is he a liar? Who is it? Why is your mother alone all the time? And we didn't have any source of money. We didn't know where the money will come. So we were poor, and we didn't know what can we eat, what can we wear. And we lived in a very poor neighborhood. So it was hard.
Vous voulez bien traduire cette enfance assez difficile, semble-t-il, Valérie?
Oui, c'est vrai que à l'époque, il n'y avait pas de famille monoparentale, hein, donc c'était la seule famille où il n'y avait pas de papa, puisqu'il partait régulièrement. Il partait environ, elle dit Sophie, là aujourd'hui, entre tous les 4 mois et demi, comme ça, il revenait 2 semaines à la maison, donc il était très absent. Ils n'avaient pas de source de revenus, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger, ce qu'ils allaient mettre. Et même par rapport aux voisins, c'était bizarre parce que tout le monde se posait des questions. Est-ce que c'est un homme honnête? Est-ce qu'il n'a pas une double vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Donc déjà, même lorsqu'il était vivant, la famille qu'elle avait était un peu particulière, marginale, dans le quartier où ils habitaient à Bat Yam.
Ils habitaient Bat Yam, donc c'est une banlieue de Tel Aviv, c'est ça, Valérie?
Oui, absolument, qui est située à 5-6 km de Tel Aviv, oui.
Parfois, il revenait, vous racontez ça très bien, avec des tas de cadeaux. Et alors, la petite fille que vous étiez, vous aviez à peine 4 ans peut-être, était très surprise de voir cet homme qui était à la maison un peu dans la misère, enfin, la famille vivait dans la misère, et puis qui revenait avec des tas de cadeaux. Sophie Cohen-Bender, quel souvenir vous avez gardé de ces cadeaux qu'il vous apportait?
I would like you to talk about, you know, when he came back from Europe with all those, you know, gifts and suitcases full of, you know, surprise, and what what happened, you know, in your head, because during the whole year he was not there and you were very poor, and when he comes full of gifts, you know, it was a paradox, you know, in your house. How did you live this?
Sophie Cohen-Bendor.
You know, it's not a paradox. It could be together. A girl, a young girl, doesn't understand that it's a paradox. I had a beautiful gifts and beautiful dresses with no money. So it was normal for me. I didn't understand the paradox. It was usual.
C'est assez amusant. Vous pourriez nous traduire ça, Valérie?
Oui, alors ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'elle, en tant que petite fille, elle ne comprenait pas vraiment la différence. Elle était habituée à ça. Elle avait des nouvelles robes, elle avait plein de cadeaux sans payer. Ils revenaient avec des valises, avec des choses incroyables, même des couleurs. Elle en parle dans le livre. Avant, tout le monde s'habillait avec des couleurs très uniformes, du kaki, du noir. Là, il y avait des couleurs incroyables, des étoffes incroyables. Et c'est vrai qu'elle, elle ne se rendait pas compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne collait pas.
Est-ce qu'on pourrait faire un bref portrait physique de cet homme qu'on se figure, enfin qui d'ailleurs il y a quelques photos, il y a plusieurs photos dans le livre, dont une qui fait la couverture. Quel était le genre d'homme? Est-ce que c'était le genre James Bond?
So same story, your father, can you do a portrait of your father, because we imagine him like James Bond?
Sophie Cohen.
Not at all as James Bond. He was small. He was not athletic at all. He was a chubby a little bit, not a sportive man at all. He was like a clerk. He was he kept his book. His handwriting was very nice, and he was trying to be nice to everybody, not aggressive at all. He succeeded by being nice and smart. He has a perfect memory. He could remember anything he heard or saw. It was a gift for him. And he was very Zionist. This made him so strong. And he liked to be alone. He could be alone a lot of time.
Valérie.
Donc elle vous dit qu'en fait son père était assez petit. Il n'était pas du tout sportif, même un petit peu bedonnant, dit-elle. C'était quelqu'un de très rigoureux. Il tenait ses comptabilités, il avait une écriture, une très très belle écriture. Il était très sioniste. Et en fait, tout ça, tous ces éléments, ça a fait qu'il est devenu si fort. Et alors, ce qu'il avait, c'est qu'il était très gentil. Il avait le don de l'écoute. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Sophie a le même don d'écoute. C'est pour ça, je pense, qu'elle était dans cette direction et qu'elle est devenue psychanalyste. Et il était très gentil avec tout le monde. Il parlait à tout le monde. Et tout ça, c'est ce qui a fait de lui un homme différent et l'homme qui a pu justement vivre ses missions avec succès.
Voilà, nous allons le retrouver dans ses missions dans un instant, mais auparavant, on va écouter un des choix musicaux de Sophie Cohen-Bendor, qui tombe bien, il s'agit de Leonard Cohen. Alléluia.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hair, and from your lips she drew the hallelujah.
Voilà, toujours sur IDFM Radio, dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy. Et nous sommes ce soir en compagnie de Valérie Pérez-Zenouchi et de Sophie Cohen-Bendor, la fille de l'un des plus célèbres héros d'Israël, Eli Cohen, un agent du Mossad au début des années 60, peut-être même un petit peu avant. Alors, elle publie ensemble, elle co-signe un livre intitulé « Eli Cohen, le héros du Mossad » aux éditions Ramsey. Et ce livre contient de nombreuses situations d'espionnage, et notamment au cours de ses séjours en Argentine, en Belgique, en Allemagne et surtout en Syrie, évidemment. Pouvez-vous, Sophie Cohen-Bendor, nous raconter comment se sont déroulées les premières missions ? La première est très importante. On aimerait comprendre le sens de ces mois passés en Argentine. Il s'agissait de faire quoi ? D'infiltrer quoi ? De récupérer des informations sur quoi ? On va poser la question à Sophie Bendor, qui va d'abord être traduite par Valérie Pérez.
So we are going to talk about the Argentina part, you know, when he was sent by the Mossad to Argentina. And he would like to know why they chose Argentina and what he was supposed to do there.
Sophie Cohen Bendor.
There was two reasons he was sent to Argentina. There was a great, a very huge community of Syrian immigrants there, and he could get a real passport. They didn't want a fake passport. So he went to a hotel by his fake name, not the Camille Amentabet, a fake name to hotel, and then he got passport. He waited for passport, and then as Camille Amintabet, he rented a flat, and he started meeting people.
Voilà, on entre vraiment dans le monde de l'espionnage. Ouais, allez-y, Valérie, traduisez-nous tout cela.
Oui, donc en fait, il arrive en Argentine parce qu'il y avait une grande communauté syrienne qui demeurait là-bas. Alors, il n'avait pas son nom qu'on connaît, on dit Eli Cohen ou Camille Amentabet, il ne s'appelait pas encore comme ça, il avait encore un autre nom. Et il a commencé à louer un appartement quand il a changé d'identité et quand il a eu ce vrai passeport syrien. Et en définitive, il est allé en
Argentine.
Pardon. Il a pris ce nom quand il a eu son passeport argentin, parce qu'il voulait en fait qu'il reçoive un vrai passeport argentin. Vous voulez qu'on la refasse ?
Non, non. Simplement, il s'agit de créer une sorte d'avatar, une couverture, ce qu'on appelle une couverture dans le monde de l'espionnage.
Voilà, c'est ça. Il était là-bas pour créer sa couverture, ce qu'il allait devenir après, c'est-à-dire un homme d'affaires qui allait intégrer justement cette communauté syrienne. Mais il y a été avec un vrai passeport argentin. Il ne voulait pas qu'il ait un faux passeport, ce qui est très facile à obtenir, surtout quand on est agent du Mossad. Là, c'était un vrai passeport. Il a pris la nationalité argentine.
Sophie.
And he started there his image as a Lebanese immigrant that wanted to go back to Syria, where the origin of the family was.
Voilà, en fait, il a pris comme... en fait, l'idée, c'était qu'il était un immigrant libanais qui voulait revenir en Syrie, parce que sa famille était de Syrie à l'époque, puisque son père était né à Alep. Donc en fait, il demandait à retourner chez lui.
Oui, tout ça est très étrange, parce que, évidemment, un espion du Mossad, il n'apparaît jamais sous son nom. Il apparaît toujours sous différentes identités, et cette capacité à passer d'une identité à l'autre est pour nous assez fascinante.
For everybody, the fact of going from one identity to another one, it looks crazy, but it's what happened for him.
Sophie.
They built his identity. They worked on it many, many days. I don't think too much. I think it was too little, because his Spanish was not great. He studied there every day Spanish. And he was a good student, but he worked on it, and it was not perfect. And he had a group that learned together what identity and what kind of Arab he was and what money he has. They gave it to him, and he had to learn it. It was crazy, but I think you can love it also.
Valérie.
Alors elle dit que oui, effectivement, c'était fou. Alors ils ont travaillé hein, sur cette identité. Alors elle dit, pas suffisamment, parce qu'il y avait des choses, il y avait des imperfections. Par exemple, l'espagnol, il parlait pas très bien l'espagnol, donc il faisait tous les jours des cours d'espagnol. Au niveau de l'arabe aussi, bah, l'arabe syrien, c'était pas le même arabe. Donc c'est vrai que ça paraît fou, mais en même temps, c'est juste incroyable, quoi. Et on peut aimer cette histoire, parce qu'elle est, elle vient de nulle part. C'est une histoire qui est unique. Il y a beaucoup de mystères encore.
Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de mystères, on va les voir dans la suite de l'émission. Il se trouve qu'on a ce petit homme brun avec sa moustache, petit mais assez élégant quand même, qui vient d'un milieu pauvre, qui vit en Israël avec des moyens assez modestes et qui se trouve en Argentine, infiltré les milieux syriens, ce qu'on ignorait pour la plupart d'entre nous. On ignorait qu'en Argentine, dans les années 50, il y avait beaucoup de Syriens. Et c'est par ces contacts-là qu'il va pouvoir, disons, se créer un réseau, un carnet d'adresses, de relations de haut niveau qui vont lui permettre de retourner en Syrie. Mais aussi au travers de l'Europe, parce que sa couverture est d'être un homme d'affaires, et ce petit bonhomme se trouve être capable d'être à la fois le père de Sophie, qui a l'air tellement sympathique, gentil, ouvert à tout son voisinage et à ses enfants, à sa femme, beaucoup bien sûr, et en même temps un redoutable homme d'affaires, mais toujours avec une capacité de relation aux autres et de mise en confiance. Voilà le miracle qui se déroule en Argentine pendant quelques mois. Est-ce que vous voulez bien le traduire, Valérie?
So he said that your father was your father. So very loving with you and your family and his wife. And at the same time, he was a very good businessman going, you know, over Europe and creating, you know, contacts, you know, in Argentina to go in Syria. So when you think about your father, it's very difficult, you know, to imagine someone so different in one side with you and in the other side with the mission he had.
Sophie Cohen-Bender.
I don't think he was so different. Even the Syrian people said he was their best friend and they loved him and he was a loving man. He really became one of them. He was not a businessman. It was a show and not a great one. He didn't succeed to be a great businessman, and he tried always to save money for Israel. So maybe they thought he's not as rich as he supposed to be. It was imagination was not so good of how to be rich or businessman, but here it was good enough.
Alors, c'était pas du tout un bon businessman. Il a pas du tout réussi dans les affaires. En plus, il était très préoccupé de faire gagner de l'argent à Israël, donc il voulait surtout pas trop en dépenser. Et d'ailleurs, les Syriens ont dit de lui que c'était le meilleur ami de tout le monde. Donc, il était pas si différent, en fait, de ce qu'elle connaissait, elle, en tant que père. La description qu'on en a fait tout à l'heure, c'était justement le même homme. Et elle est pas du tout étonnée de sa réussite en Syrie. Hein.
Cela dit, peut-être pas un excellent homme d'affaires. D'ailleurs, il aurait réussi en quelques mois ce que des hommes d'affaires mettent des années à créer. Mais il devait avoir des qualités exceptionnelles, parce que avoir la confiance de gens qui ne sont pas forcément de son milieu, avoir la confiance des autorités argentines, et puis petit à petit, il a des interlocuteurs en Belgique, il a des interlocuteurs en Allemagne, et tout ceci a l'air de fonctionner grâce à des qualités que j'aimerais que vous nous expliquiez, Sophie Cohen-Bender.
So he said everybody trusted him, you know, in Syria, you know, in Europe. He has a lot of people, you know, trusting him. And he wants to know what quality, what was the tools that he had for this to happen and become real. It's not that easy.
Sophie Cohen.
I think most of the parts were true, except the big one. He loved them. He was among friends. He appreciated them. He did favors to them. They were in a great contact there. So he had, above all, this his mission. And he said, I'm a messenger of Israel. I'm a soldier of Israel. And it was the most important part. But they felt that he loved them, the Syrian. They called him a traitor. And he said, I'm not a traitor. I'm a soldier.
Valérie.
Donc en fait, ce qu'elle a dit, c'est que c'est sa sincérité, parce qu'il les aimait vraiment du fond du cœur. Il a menti sur rien, à part sur la chose majeure, c'est-à-dire que c'était un soldat d'Israël, le plus important c'était sa mission, et quand ils l'ont attrapé, ça je le dis dans le livre aussi, puisqu'elle me l'a raconté, Sophie, c'est très important, on lui dit que c'est un traître à leur cause, pas un ennemi. Et il dit non, je ne suis pas un traître, je suis un soldat.
Très impressionnant. Nous allons continuer à explorer cette vie d'espion et puis cette capacité d'écoute dont parlait Valérie Bérez il y a un instant, que vous avez aussi intégré, Sophie. Mais auparavant, on va écouter un peu de musique. On va écouter votre choix musical. C'est Nina Simone dans Feeling Good.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
Après cette belle voix de Nina Simone, nous revenons dans l'émission Entre Chien et Loup sur IDFM Radio avec Claude Lévy, et j'ai le grand plaisir ce soir de vous faire pénétrer dans le monde des services secrets, et pas les moindres, puisque Sophie Cohen-Bendor est une des filles d'Eli Cohen, qui reste aujourd'hui encore, plus de 60 ans après sa mort, un légendaire agent du Mossad. Vous expliquez dans le livre les différents services existants en Israël, la sécurité de ce pays, dès sa création, ayant toujours été une priorité. Et cela passe par des méthodes, des techniques qui sont sans aucun doute de plus en plus sophistiquées aujourd'hui. On n'en est plus à s'envoyer des télégrammes.
So we are talking about the security of Israel. It has always been, you know, priority in the country, and now with all the technical, you know, advance that we have, we are not, you know, at the time of your father, you know, sending broadcast to the Mossad. So lots of things, you know, change.
Sophie Cohen-Bendor.
question?
The question is that a lot of things changed since your father was a spy before the sun broadcast, but now, you know, with cybersecurity and everything, there is different ways, you know, of having information.
Yeah, but there is more cyber and internet and listening, and but the human fact that the human can get more information and make it more accurate is will never be it will ever be part of the equation. We cannot lose it.
Yeah. Alors, elle dit qu'effectivement, tout a avancé maintenant, les écoutes, la cybersécurité, etc. Mais la partie humaine, ça ne pourra jamais être exclu de l'équation. Voilà.
Alors, c'est très intéressant parce que dans le livre, on retrouve à la page 151, une sorte de programme d'entraînement, un programme de formation au métier d'espion. Alors, je vais en citer quelques techniques qui sont apprises, mais à haute dose chez les agents. Alors, on travaille évidemment la théorie de l'activité secrète, la théorie de la couverture, ce qu'on a vu, Eli Cohen transformé en homme d'affaires qui s'appelle Amin Kamel Thabet. Et puis aussi, on apprend la planification opérationnelle, ça c'est très important, et la compétence qui concerne l'évaluation des situations. C'est-à-dire qu'on est toujours en milieu hostile quand on est un espion, et évidemment, à chaque fois, il faut reprendre ses cartes et les redistribuer. On y apprend aussi le comportement face à la sécurité dans un pays. Vous êtes arrêté par la police ou un gendarme, vous ne donnez pas votre passeport, j'imagine. Je ne suis pas espion, mais j'imagine. Voilà comment on travaille aussi dans cette... On apprend la topographie, se repérer dans l'espace, dans les villes. C'est évidemment très important. On apprend l'utilisation des adresses fictives. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être censé vivre à plein d'adresses possibles. Et puis, à l'époque, installer une station sans fil, aujourd'hui, ça va être beaucoup, beaucoup plus sophistiqué. Savoir prendre des photos, savoir cacher du matériel dans des endroits auxquels on ne s'attend pas, etc. Et puis, des exercices de mémoire, vous parliez, Sophie, de l'aspect humain de ce métier-là, effectivement, la mémorisation des situations, des noms, des fonctions, etc. Voilà, un petit panorama de ce qu'est un entraînement à haut niveau des espions du Mossad.
In the book we talk about, you know, the training of the spy, so everything that they have to learn, you know, how do you react, you know, if you fall in front of the police, what kind of exercise you have to do, how to hide materials, how to live in different places very fast, not to get catched and everything. And what he would like you to tell us about this training, and if it's still the same or if it changed since then.
I don't know if it changes, they don't tell me. But he had to learn Islam. The way of Arabic, are moving, are praying, are talking, how they think, what is their culture, because he was Jew. He never went to a mosque. So this is the main story of him. He had to memorize his history, fake history. It couldn't be holes in it. Or different kind of stories. It has to be sharp, and he has to be to learn if he has tail on him, to see if someone is walking and watches him. He had to spot people without they know he's looking at them, to read the lips or. To do morse, to had the electronic to transmit information, and he had to do a weapon, but he never used the weapon. He had to learn about weapons, and he has to improve his great memory. He had to know the coordinate of every bunker, every site he saw, and he had to do it better.
Valérie, traduisez-nous tout ce mode d'emploi de la vie d'espion.
Alors elle a commencé par dire qu'elle ne sait pas si aujourd'hui c'est pareil ou pas, hein, la formation justement des espions. En ce qui concerne son père, la plus grande partie de sa formation c'était d'apprendre l'islam, parce qu'il n'était jamais rentré dans une mosquée avant. Il a dû apprendre le morse, il a dû apprendre à lire sur les lèvres, il a dû apprendre à savoir s'il était suivi ou pas, il a dû apprendre aussi à suivre les gens sans être remarqué. Donc c'était vraiment des techniques d'espion qui étaient des fondamentaux pour lui. Et ça lui a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail. Il fallait qu'il apprenne par cœur son histoire aussi, de manière à ce qu'il n'y ait jamais de faux pas, et que ce soit toujours la même version, pour ne pas se faire attraper par l'ennemi. Donc un gros travail de mémoire, et puis un gros travail aussi sur le terrain, justement, pour pouvoir passer tranquillement, sans se faire attraper.
Il n'est pas question dans le livre d'action de votre père qui ait eu pour conséquence la mort de certains ennemis. Est-ce que vous pensez qu'il avait une arme sur lui, et pensez-vous qu'il ait pu procéder à des assassinats ciblés? Question difficile
ennemis,
peut-être.
Vous disiez les ennemis. Ok, j'ai oublié de vous traduire tout à l'heure que aussi il a dû apprendre à manier les armes, mais qu'il n'a jamais utilisé des armes. So here is the question. He would like to know if your father, because he knew how to use guns, he could kill the enemy himself.
No. Sophie Cohen-Bender.
No, he was never meant to kill anyone. Never. It was not his mission.
Valérie.
Voilà, donc c'était absolument pas sa mission de tuer qui que ce soit, sa mission c'était de récolter des informations.
Dans sa longue existence en Syrie, lorsque dans les années 60, au début des années 60, il a été amené à fréquenter les hauts dignitaires du régime, différents ministres, les militaires de haut rang, quelle est la situation d'Israël par rapport à ses voisins à ce moment-là dans l'histoire d'Israël? On est donc au tout début des années 60, 61, 63.
So when he was in Syria, he was very close, you know, to the power and you know, politics and everything. And he would like to know what was, you know, the situation of Israel at this period of time when your father was in Syria.
Sophie Cohen-Bender.
Israel was in great danger from north, from every side of her. But, you know, the Syrians tried to move the water through the Jordan River from Israel to get the Kinneret Sea dried, that Israel will have no water. And he succeeded in to make it, they bombed the tools that tried to do this, and he was supposed to report of an army movement, so Israel will be ready to a war against the north. And the Prime Minister Rabin and Levi Eshkol said that he helped in getting this mission and the war of 6 days in Israel at 67 was a short one, thanks to him, a lot of thanks to him.
Valérie, je crois que c'est important. Là, ça fait partie des missions en Syrie qu'Eli Cohen a dû mener.
Oui, alors en fait, le danger, il venait surtout du nord, hein, avec des ennemis qui étaient là et qui voulaient attaquer Israël, donc ses ennemis arabes. Et puis surtout, les Syriens avaient entrepris d'assécher le lac de Tibériade. Donc du coup, ils avaient mis des bombes sur la manière de puiser l'eau pour en fait amoindrir Israël en eau. Donc la mission d'Eli Cohen, c'était de prévenir Israël des différentes attaques militaires hein, qu'ils avaient l'intention de faire. Et d'ailleurs, Lévi Eshkol à l'époque et Rabin ont dit qu'il avait donné des informations très 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 importantes pour Israël en ce qui concerne la guerre des six jours en 67, et que sans ces informations-là, Israël aurait peut-être perdu, ou en tout cas peut-être qu'Israël aurait gagné, mais ça aurait duré bien plus que six jours. Donc ils ont remercié, ils ont dit merci à Eli Cohen d'avoir donné des informations si importantes.
Vous parliez de relations avec les premiers ministres Yitzhak Rabin et Lévi Eshkol. Dans votre histoire de petite fille, Sophie, vous avez eu à rencontrer Golda Meir dans des circonstances un peu particulières avec votre mère. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement cet épisode et ce qu'il vous en reste?
I would like you to explain him how you met, you know, Golda Meir, the way you know you received the telephone call the Saturday and blah 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 and blah blah.
Sophie Cohen-Bender, elles s'amusent toutes les deux. Elles ont des choses secrètes entre elles.
We were invited to her house. I don't know why. We came into her small, very small kitchen, like in a kibbutz, modest one, no extra show or tools. It was a simple and very small one. And she was standing there like a big mama, and she served us coffee herself, and she was very warm. I didn't understand who this woman is and what does she want, but it was regular because we saw a lot of people, most of them are famous, and we didn't know. I think we combed their hair and sit on their knees and play with them. My brother tell me that he had punched a Begin's leg. It was regular. It was crazy, but regular.
Valérie, racontez-nous ça, ce qui a fait tellement rire.
Bah oui, parce qu'elle rigole, parce que c'est vrai que maintenant, avec le recul, elle se rend compte qu'elle, elle se rend compte de rien. Donc ils ont été ensemble, elle a envoyé, elle l'a pas dit là maintenant, vous le verrez dans le livre, mais en fait, Golda Meir a envoyé la voiture officielle, ils sont arrivés là-bas, la cuisine était toute petite, elle les a accueillis comme une grand-mère, il y avait beaucoup de chaleur, et elle leur a servi le thé, le café, alors ils étaient assises, les frères et sœurs étaient assis, puisque la maman d'India donnait des consignes, attention, tenez-vous bien, on va voir quelqu'un d'important, mais elle savait pas du tout où elle était, et le truc c'est qu'ils n'ont fait que ça en fait, en étant enfants, ils ont rencontré des gens super célèbres, et avec des rôles politiques incroyables, et ils savaient pas, et son frère lui a même dit, voyez, ça c'est un scoop, c'est pas dans le livre, qu'il aurait donné un coup de pied à Begin sans faire exprès, parce que voilà, c'était que des enfants qu'on trimbalait partout. Elle en rigole encore, parce que c'est vrai que maintenant c'est des bons souvenirs, mais c'était ça leur vie.
Leur vie, c'était ça. C'était une vie dans une banlieue de Tel Aviv, avec des moyens tellement petit, tellement modeste, et puis se retrouver dans le kibbutz avec la première ministre, une des plus grandes célébrités du monde, et ça vous fait encore rire. Juste un mot, Sophie, c'est la période un peu plus dramatique, puisque votre père a malheureusement été... on ne sait pas dans quelles conditions d'ailleurs, a été pris par... les Syriens et mis en procès, dans un procès qu'on peut dire un petit peu cavalier, et qui a donné lieu à son exécution. Est-ce que vous pourriez nous rappeler cet épisode très dramatique pour vous et votre famille?
So he got caught by the Syrian and he went to court. It was a trial, specific trial, with the story of the French lawyer and everything. Finally, they decided to kill him. And I would like you to tell us about this story, this part of the history, which is the saddest.
Sophie Cohen Bender.
They realized in Israel only a few days after he was caught. They try to get him a French lawyer, but he never was allowed to see him. It was a fixed trial. Everybody knew what was the result will be. He was best friend of the judges. He had to play that he didn't know them for their sakes. Many of the Jews was arrested. Many of his friends were arrested, the Syrian arrested. They didn't know how wide his work was. A lot of people were afraid of it. And it was Israel tried to buy his life. To make a military action was not possible, but to buy his life, and they involved all the president, the Pope, the Queen of England, everybody was involved in it. But it was known that it will not be, couldn't succeed. Money, drugs, medical drugs was suggested to the Syrian, but it was such a shame for the Syrian government, this point, so they had to kill him.
Valérie, la fin malheureuse d'Eli Cohen.
Alors, ils ont essayé effectivement en Israël, quelques jours après l'arrestation, de lui envoyer un avocat français. Alors, il n'a jamais vu cet avocat. Parce que ce que dit Sophie, c'est que le procès s'était joué d'avance. Il savait que de toute façon, il allait être assassiné. Il faut savoir que quand il a été arrêté, il n'y a pas que lui qui est arrêté. Il y a eu de nombreux juifs, il y a eu de nombreux Syriens qui étaient ses amis. Le juge de ce procès, c'était l'un de ses meilleurs amis. Donc il a dû faire comme s'il ne le connaissait pas. Et c'est vrai qu'Israël a tout essayé, les présidents, les ministres, d'essayer d'acheter Eli Cohen, de l'acheter avec de l'argent, de l'acheter avec des médicaments, en échange de médicaments. Tout le monde s'y est mis, même le pape ou bien la reine d'Angleterre. Mais ils n'ont rien accepté. Parce qu'en fait, l'humiliation était tellement énorme. C'était tellement horrible de savoir qu'ils avaient été trahis comme ça et que c'était vraiment sous leur nez. Ils avaient un espion qui rentrait dans le pouvoir syrien qu'ils n'ont pas supporté. Ils ne voulaient rien entendre. Donc il a été assassiné sur la place publique.
Oui, que Sophie Cohen.
They suggested the Syrian that they will kill another man as my father and they will save him secretly. And they have a lot of money for that, but they didn't want.
Oui, alors ils ont aussi suggéré aux Syriens d'assassiner un autre homme, ou bien d'envoyer un homme mort à la place d'Eli Cohen, et de leur donner beaucoup d'argent pour qu'ils sauvent leur honneur, en définitive, mais ils n'ont pas accepté.
Et ainsi, donc en 1965, Eli Cohen est pendu en place publique. Il a été tourné des images de cette exécution qui reste dramatique. Vous verrez tout ceci dans le livre. On va s'interrompre avant de finir cette émission. On se prendre un peu de temps pour écouter Barbra Streisand. C'est Human in Love.
With you eternally mine.
Voilà, toujours sur IDFM, dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy, et ce soir avec Sophie Cohen-Bendor, la fille d'Eli Cohen, dont nous avons largement retracé l'action comme agent du Mossad, que l'on pourra retrouver évidemment dans le livre qu'elle publie avec Valérie Pérez Enouchi, Eli Cohen, le héros du Mossad. Sophie Cohen-Bendor, vous êtes devenue psychanalyste. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette vie que vous avez eue enfant, dont on a eu quelques témoignages tout à l'heure, et puis ce métier? J'aimerais savoir si les traumas que vous avez connus vous permettent d'être à l'écoute des traumas de vos patients en Israël. On imagine bien que la situation n'est pas très simple et que beaucoup de vos patients ont des peurs, des angoisses.
So we'd like to know if the life that you had, the trauma that you had, finally, you know, has a relation with the job that you're doing today, being a psychanalyst.
Sophie Cohen.
I think so. You know, at the beginning of my choosing life as a psychoanalyst, I thought it will be nice to sit and listen and do nothing else. That was the first thought about the job. But under the surface, I understood that I have to understand life alone. Nobody explained me what happened. I had to get stronger alone. So it made me much more stronger than the area, my fellow, that could be children. I had to understand reality through my own eyes, and I love to do it. I love to listen, I love to try to explain myself what really happens. And it's the main characters of my job, so it was natural to me to do this job. And I didn't break down through this becoming stronger. So I can do it with the rest. I said, okay, now let's go. We'll do it together. I did it. You can do it. Don't cry anymore.
Mais voilà, donc ça, la manière dont elle vous répond, c'est tout à fait Sophie. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, voir la vie du bon côté et essayer toujours de voir le verre plein plutôt que le verre vide. Donc elle l'a dit, elle a eu des traumas terribles. Elle a essayé de trouver les réponses toute seule. Vous verrez dans le livre qu'elle, on lui a donné des psychanalystes qui n'étaient pas au top et qu'elle a dû vraiment, vraiment s'en sortir seule. Et une fois qu'elle a mieux compris la vie, qu'elle a compris par elle-même ce qui lui était arrivé, elle s'est dit, alors maintenant, je peux aider les autres. Et c'est ce qu'elle fait. Elle aide les autres. Et elle dit, ne pleure pas. Quand un patient rentre chez elle, elle va lui dire, ne pleure pas. Parce que maintenant, on va essayer de sécher tes larmes et on va essayer de comprendre pourquoi tu as des souffrances. Et elle a beaucoup de bonheur, elle, à soigner les gens. Et c'est vrai que c'est une qualité qui est formidable quand on est psychanalyste.
Et bien voilà la plus belle conclusion qu'on ait de tout cet itinéraire autour d'Eli Cohen. Un très grand merci, Sophie Cohen-Bendor, et merci aussi à vous, à Valérie Pérez-Enouchi. Je rappelle le titre de votre livre, Eli Cohen, le héros du Mossad, aux éditions Ramsey. Merci aussi à Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre Chiens et Loups qui, rien à voir, sera consacrée à Léo Ferré avec Jocelyne Sauvard. Tout de suite, vous retrouvez l'émission Luso Mundo, nos amis de langue portugaise. Merci de votre fidélité. Et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio. Merci encore Valérie.
Merci à vous.
Merci Sophie Cohen-Bendor.
Thank you very much.
Merci infiniment à vous deux.